6h36 minutes. L'essai et la revue du jour avec Jacques Munier. Quel programme magnifique, Jacques. Alain Corbin, fameux auteur, historien du miasme et de la jonquille.
Historien des sensibilités.
Cette fois, pour La douceur de l'ombre, l'arbre, source d'émotion de l'Antiquité à nos jours chez Fayard.
Voilà. L'arbre, porte en lui une écriture, nous dit Alain Corbin, si l'on en juge par le nombre d'écrivains de tous les temps qui dialoguent dans son livre. La formule ne concerne pas seulement les traces portées sur l'arbre par les conditions ou les accidents de sa croissance, comme ses anneaux qui forment son tronc et permettent d'établir son âge, ainsi que l'histoire des événements météorologiques et climatiques qu'il a connus. En disant cela, l'historien des sensibilités se réfère aussi aux signes ou aux messages gravés sur son écorce, écorce que jadis on détachait pour en faire une surface en attente du texte, ou des ex-voto suspendus à ses branches, tous ces gestes qui dans son esprit semblent se confondre avec la naissance de l'écriture. L'arbre et le livre ont partie liée, en latin liber signifie à la fois le livre et la pellicule qui est située entre le bois et l'écorce et qui une fois séchée offrait une surface d'inscription. C'est de l'arbre que vient la pâte à papier, ce dont l'allemand Buch, l'anglais Book et nos bouquins ont gardé la mémoire. Et en matière de messages incrustés sur ses flancs, le plus souvent amoureux, voici celui que Ronsard dit avoir dédié à Hélène. « J'ai gravé sur le tronc nos noms et nos amours qui croîtront à l'envi de l'écorce nouvelle. » L'arbre a une présence forte au point qu'il peut, comme le suggère l'expression bien connue, cacher la forêt. Il s'élève dans sa singularité, voire sa majesté ou son élégance dans le mouvement et la forme. De lui émane une impression de force, de stable assurance. Comme dit le poète, il délivre une leçon. Penser en termes de vie plutôt que de connaissance, comme ça devait être le cas au Jardin d'Éden. Le poète, c'est Yves Bonnefoy. Son élan vers le ciel invite à la verticalité et sa frondaison bruissante vient démentir le profond silence qui entoure son existence mystérieuse. S'il nous fascine, c'est aussi par sa longévité, jusqu'à 4000 ans. Combien de fois une vie d'homme ? C'est pourquoi il suscite une méditation sur le temps et la mémoire. Dans les ruines de Delphes, Jacques Lacarrière écoutait les voix du passé. « On ne les entend plus, disait-il, les temples sont écroulés, les dieux sont morts. Mais les arbres, eux, perpétuent la chaîne bruissante du passé. » Le soir, on contemple cette vie humaine mesurée, limitée, presque harassée, face à la force inépuisable, inaltérable des grands oliviers immobiles sous la lune. Et Michelet, apostrophant les arbres, « Vieux pontife, puissant médecin, dites-moi, je vous prie, le mystère d'immortalité, une initiation tout entière est en vous. » Passeur de temps, l'arbre l'est aussi d'espace, tendu qu'il est entre ciel et terre. Il fait le lien entre l'élément chthonien et uranien. Le chêne, l'arbre de Thor, dieu des météores, incarnait chez les Celtes l'être cosmique qui soutient le monde, comme le baobab d'Afrique ou le figuier des Indes équatoriales. Comme le rappelle Alain Corbin, durant des siècles, la botanique chrétienne s'est enracinée dans le ciel, aux dépens des racines souterraines. Longtemps, on ignora la vie tellurique, obscure et la respiration racinaire de l'arbre. Tous les cordages, les leviers, les pompes aspirantes dont parle Bernardin de Saint-Pierre. Dans son texte intitulé « Sérénité », Martin Heidegger évoque le besoin de racines et un arbre en bordure du chemin lui inspire sa méditation. C'est à partir des profondeurs du sol natal que l'homme doit pouvoir s'élever dans l'éther, le domaine ouvert de l'esprit. Mais sans humus, pas de racines. C'est la couche, l'humus, c'est donc la couche superficielle où se décomposent les éléments qui vont nourrir l'arbre, là où s'opère la transformation de tout ce qui pourrit pour alimenter la régénération, et notamment les feuilles mortes qui émerveillaient Thoreau et Proust. C'est là le lieu de l'échange entre ciel et terre, la fine bordure entre la vie et la mort, d'où l'universelle association de l'arbre au cimetière et à la tombe qu'évoque Victor Hugo dans Les Contemplations lorsqu'il parle du mort qui sent l'affreuse chevelure des racines entrée dans son cercueil. En retour, le peintre et dramaturge vaudois Gilles Pidoux décrit ainsi le trajet inverse de la vie et l'esprit fantomatique qui anime certains arbres. Les morts remontent dans la sève, les morts affluent sous l'écorce, leurs doigts s'agitent au bout des branches, leurs yeux brillent dans les nœuds, la résine de leur sang chante sous les brindilles. Objet de culte et de vénération, l'arbre peut donc aussi être un motif d'épouvante, comme l'arbre mangeur d'hommes des gravures exotiques. Le romantisme aura beaucoup développé ce thème en insistant sur le sentiment ambivalent qu'il peut susciter. En image, ça donne l'abbaye de Eichwald par Caspar David Friedrich, avec ses chênes dénudés dont les branches noires déchirent le ciel sombre autour d'une ruine gothique. Mais avant cela, Jacques Callot avait illustré ce lien fatidique entre l'arbre et la mort, avec l'arbre au pendu et l'horreur des pendaisons collectives durant la guerre de 30 ans. George Sand a gardé un souvenir terrifiant des récits de sa grand-mère sur les bandits de grand chemin pendus sur les lieux de leurs méfaits dans la forêt d'Orléans et donc au bord des routes, des dépouilles que le vent balançait sur votre tête. Quand on connaissait la route, on connaissait les pendus. L'arbre et les rêveries du désir, c'est un chapitre plus souriant, chapitre final. Sans remonter à l'arbre de la Genèse, on soupçonnait à Rome le figuier d'en inspirer de coupables aux Vestales. Et depuis l'histoire d'Apollon et Daphné, qui a inspiré le chef-d'œuvre du Bernin, on ne compte plus les histoires d'amour à l'ombre d'un arbre, à l'ombre ou à l'abri, comme Victor Hugo et Juliette Drouet, un mémorable soir d'orage où pendant 1h30, je cite, « Juliette sut maintenir l'extase ».
Voilà, on lira sûrement Alain Corbin, donc La douceur de l'ombre chez Fayard, l'arbre, source d'émotion de l'Antiquité, le jour de l'émotion. Il en sera question aujourd'hui, vous savez, dans les matins, Jacques, avec justement Michel Vinocq et Fabrice d'Almeida, notamment avec la parution du livre de Fabrice d'Almeida, Quand l'histoire nous prend par les sentiments. La revue du jour, c'est la revue Siècle 21, l'arbre toujours.
Voilà, revue Siècle 21, l'arbre, ce grand besoin de feuilles, avec un dossier donc introduit par le texte de Gabriel Alten, qui s'attarde notamment sur le vocabulaire de l'arbre dont on parle. De la couronne et du port, avec un souvenir également de sieste de printemps sous des tilleuls vibrants comme des violoncelles de leur charge d'abeilles, et puis des pages d'auteurs étrangers comme Volker Braun, le Syrien Zacharia Tamer ou l'écrivain tchadien Nimrod.